Europe 1. Europe 1.
9h, 10h. C'est arrivé cette semaine.
Frédéric Tadéhi.
Samuel Blumenfeld, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes critique de cinéma au Monde et vous publiez chez Équateur un livre intitulé tout simplement « Delon Belmondo » dans lequel vous étudiez les deux stars du cinéma français des années 60, 70, 80. Un livre d'autant plus intéressant que vous mettez des mots sur quelque chose que tout le monde a ressenti au cours de ces années-là en les comparant, car on ne pouvait pas s'empêcher de les comparer. Hein. Toute notre vie et toute la leur, on les a comparés.
Absolument, parce que déjà, ils surviennent quasiment au même moment. Hein. C'est-à-dire que vraiment au tout début des années 1960.
En mars 60, exactement.
Voilà, ils naissent en même temps. Ils font d'ailleurs leur début quasiment en même temps, parce qu'ils apparaissent ensemble un petit peu avant, de manière anecdotique. Mais leur chemin déjà se croise, mais ils naissent en même temps, Delon avec Plein Soleil et Belmondo avec À bout de souffle. Et au-delà de cette naissance extraordinaire, hors du commun, parce que nous parlons de deux films exceptionnels, mais soudain se dessine en fait un autre phénomène d'emblée, c'est que Plein Soleil est un film de René Clément, c'est un film dit de qualité française, c'est un film héritier donc d'une longue tradition du cinéma français, celle d'un cinéma français cousu main, alors que Belmondo est donc s'impose d'emblée comme la star de la nouvelle vague, dans un cinéma fondé en partie sur l'improvisation. Encore sur l'improvisation dans la nouvelle vague, il y aurait beaucoup de choses à dire, parce que c'est une fausse improvisation, mais véritablement, Belmondo devient l'acteur d'une autre école, donc de deux tendances du cinéma français qui ne cesseront de s'opposer. Donc en fait, d'emblée, ils sont différents.
Et tout le monde garde encore aujourd'hui une préférence pour l'un ou pour l'autre. En fait, pendant tout le temps, on a choisi notre camp. On était soit pour Delon, soit pour Belmondo.
Absolument. Absolument. Et alors, on va dire, vous voyez, quand on dit ça, on est soit pour Delon, soit pour Belmondo. Ce qui est intéressant, c'est pas une question de goût. C'est-à-dire que je pense que vous ne choisissez pas Delon ou Belmondo. Je pense que Delon ou Belmondo vous choisissent.
Ça s'impose à nous.
Ça s'impose à vous. C'est-à-dire que tout simplement, face à ces deux stars, parce que le miracle, c'est qu'ils soient nés en même temps. Et en même temps, et voyez, et curieusement, la naissance de deux grands artistes, enfin un grand artiste, ne naît jamais tout seul. On a Racine et Corneille, plus tard on aura Depardieu et Devers. Et, je veux dire, aux États-Unis, vous avez Steve McQueen et Paul Newman. En fait, on naît par pair. Voilà. C'est comme lorsqu'on a une très très bonne idée, en fait, cette bonne idée, en fait, quelqu'un d'autre l'a en même temps.
Mais vous dites aussi, Samuel Blumenfeld, qu'il n'existe pas deux acteurs aussi dissemblables et qu'ils évoluent dans deux galaxies complètement différentes.
Ah, mais complètement. Si vous voulez, Delon est le héros tragique, Belmondo est le clown. Belmondo est un comédien, Alain Delon est un acteur. Belmondo est issu d'un milieu bourgeois. Alain Delon est issu d'un milieu prolétaire, il porte les douleurs de l'enfance. Ils sont diamétralement opposés. Et quand je dis, voyez, c'est Delon ou Belmondo qui vous choisissent, Delon porte si fort les douleurs de l'enfance. Et il les porte à l'écran. Le regard enfantin, juvénile de Delon, qu'il porte durant toute sa carrière adulte, on va dire, le sens avancé de la tragédie qu'il cultive parce que c'est ainsi qu'il est. Et ce goût chez lui à mourir presque systématiquement dans ses films, opposé à Belmondo qui lui justement vise l'immortalité. D'ailleurs, même lorsqu'il meurt à la fin d'À bout de souffle, c'est sur le ton de la comédie parce que Belmondo ne peut pas mourir. Donc en fait, Delon vous choisit parce qu'en fait, vous vous reflétez dans les douleurs de la petite enfance. Si votre expérience est différente, eh bien voilà, vous êtes naturellement du côté de Belmondo.
Vous ajoutez que Delon, c'est l'individu solitaire alors que Belmondo, c'est le chef de bande, que Delon est toujours vulnérable alors que Belmondo se veut indestructible, etc. etc. Oui. Mais vous ajoutez également que c'est frappant quand on revoit Sois belle et tais-toi, le premier film où ils sont apparus ensemble, personne ne s'en souvient, c'est en 1957. Mais ils partagent l'écran pour la première fois et vous dites qu'ils n'arrivent pas à exister ensemble. Non pas que l'un soit meilleur ou l'autre moins bon, mais Delon annule Belmondo et inversement. Et c'est quelque chose, à mon avis, qui est évident. Après vous avoir lu, je n'avais pas trouvé les mots, mais c'est une évidence.
Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, c'est l'eau et l'huile. Ils ne cohabitent pas. Vous voyez, par exemple, dans, il y a des acteurs qui cohabitent très bien. Je veux dire, Robert Redford et Paul Newman, ça cohabite magnifiquement bien. Ces deux-là n'ont rien à faire ensemble parce qu'ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. C'est d'ailleurs l'un des miracles. Hein. C'est le fait que ces deux acteurs arrivés ensemble soient à ce point, soient asymétriques, véritablement. Et donc, ça ne fonctionne pas ensemble. Mais quand on voit les films, vous voyez, les films, c'est Borsalino, c'est Une chance sur deux. Ce sont de mauvais films. Ce sont des films effroyables.
Bon, les gens qui nous écoutent en ont peut-être gardé de très bons souvenirs, mais c'est vrai que sur le plan cinéphilique, c'est vrai que ça n'a... Même Borsalino, ça n'a laissé aucune
c'est
trace.
Pas bon, c'est pas bon. Je veux dire, c'est pas bon. Je veux dire, c'est pas... Vous voulez revoir Delon et Belmondo, pas là. C'est-à-dire que pas ensemble, en fait, parce que vous n'avez ni l'un ni l'autre.
On voit aussi qu'il y a chez Belmondo quelque chose de l'enfant prodige, alors que y a une facilité, une décontraction, une légèreté. Alors que chez Delon, c'est le contraire. Hein. Vous dites qu'il a un désir d'ascension sociale avec la douleur impliquée par cette ambition et la difficulté d'exprimer son talent, sachant qu'à tout moment, l'on pourrait lui claquer la porte au nez.
Tout à fait. Regardez les deux films qui les ont révélés. Belmondo fait À bout de souffle, il le fait donc quasi improvisation, on peut dire qu'une moitié des dialogues sont de lui, enfin de lui, non pas signés de lui, mais je veux dire, voilà, il les sort sans s'en rendre compte, il n'a aucune conscience du film qu'il tourne.
Non, il pense que ça sortira jamais.
Voilà, et d'ailleurs quand ça sort, il a, le jour de la sortie, il a à peine remarqué que le film est sur les écrans, le matin même, il est en salle de boxe, et, avec Charles Gérard, donc son partenaire... éternel, quasi éternel, et lui dit « Ah oui, tiens, j'ai un film qui sort. » Donc il n'a pas conscience de ce qui se joue, comme si de toute façon, les choses allaient se jouer quoi qu'il arrive, qui est un luxe de bourgeois. Tant mieux pour lui, hein, bien sûr. Alors que Delon, le rôle de Delon dans Plein Soleil, d'abord, il le gratte avec les dents. C'est-à-dire qu'il le gratte, je veux dire, il dit au producteur, lors d'une fameuse réunion de préparation, il leur dit « Écoutez, vous voulez me faire jouer le fils de milliardaire qui va être assassiné, moi, c'est Ripley ou rien. »
C'est-à-dire le jeune qui, lui, n'a pas un rond et qui va prendre sa place.
Donc, je vais jouer l'ordure ou rien. Et donc, l'ordure qui est, en l'occurrence, le rôle principal. Mais simplement, ce qui se joue là, Delon, c'est que non seulement il veut jouer le rôle du salaud, mais fondamentalement, il sait qu'il n'a pas d'autre choix que de gratter sa carrière avec les dents. Ce n'est pas la même chose.
On fait une pause, Samuel Blumenfeld, et on revient à Delon et Belmondo.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Nous sommes ce matin avec le critique de cinéma Samuel Blumenfeld qui consacre un livre à Delon et Belmondo, qui les compare dans ce livre, comme on l'a fait au fond toute notre vie, sans toujours trouver les mots. Vous dites par exemple que Delon est attiré très tôt par les sujets politiques. La guerre d'Algérie, il fera deux films, L'Insoumis et Les Centurions, La peine de mort, La rafle du Lviv, c'est Monsieur Klein, L'assassinat de Trotsky, etc., etc. Belmondo, c'est le contraire, lui veut séduire la terre entière, il ne veut surtout emmerder personne. Et ces deux conceptions de l'existence, là et là aussi, c'est ce qui fait qu'on est plutôt avec Belmondo ou plutôt avec Delon.
Absolument. Belmondo veut plaire à tout le monde et il plaît à beaucoup de monde. C'est très clair. Il plaît à beaucoup de monde et c'est très bien ainsi. On comprend pourquoi il plaît, parce qu'il a de quoi plaire. Oui, Delon, c'est vraiment tout autre chose. D'ailleurs, quand vous rencontrez Alain Delon, quand vous lui parlez, ça vous est arrivé, Frédéric Taddeï, il y a une phrase qui revient régulièrement. Mais vraiment, j'irais bien presque toutes les 10 minutes, voire toutes les 5 minutes, ça dépend des moments. Et la phrase, c'est « on les emmerde ». On les emmerde. Vous dites comme ça, il y a un côté folklorique. Mais concrètement, la carrière d'Alain Delon consiste à emmerder le monde, mais au sens noble du terme. C'est-à-dire que, si vous voulez, en 64, il fait L'Insoumis d'Alain Cavalier, il est producteur. C'est le premier film qu'il produit, c'est un film contre l'OS. Il incarne un ancien toit de l'OS qui jette les armes, au sens qui dit « voilà, je ne peux pas défendre cette cause ». 2 ans plus tard, il tourne Les Centurions de Mark Robson, autre film contre la guerre d'Algérie. Un peu plus tard, bien évidemment, il tourne Deux hommes dans la ville. Un excellent film contre la peine de mort avec Jean Gabin. Le dernier film qu'il tourne avec Jean Gabin. Et surtout, il tourne en 76 et il le produit avec en partie ses propres deniers. Il n'a rien à gagner dans ce film. Monsieur Klein, le second film à mettre en scène la rafle du Veldiv. Tabou ultime, à savoir l'État français qui a assassiné une partie de ses citoyens. Qu'est-ce qu'il est allé faire dans cette galère ? Et je me souviens très bien, je lui ai demandé, qu'est-ce que vous êtes allé faire ? Vous n'aviez rien y gagné sur un plan de carrière. Il m'avait répondu, Sam, je devais le faire. Il y a un surmoi chez Alain Delon, un surmoi artistique et aussi un surmoi politique.
Vous racontez d'ailleurs que ce film a failli se faire avec Belmondo. À l'époque, c'était un projet de Costa-Gavras.
Hein. Absolument, c'était un film qui devait se faire avec Belmondo et c'était quand même un ticket magique. Costa-Gavras était le grand réalisateur de L'Aveu, de Z. Bon, j'appelle Belmondo, c'était Belmondo. Et puis alors là, c'était une machine à cash, encore plus que Delon. Simplement, bah Delon, ok, scénario, ouais, pourquoi pas, mais il voulait que ce soit drôle. Il trouvait que le film était trop tendu quand même et trop angoissant. Bon, et voilà comment les choses se sont terminées, que les producteurs ont retiré la prise.
Mais Samuel Blumenfeld, après l'échec de La Sirène du Mississippi, de François Truffaut et de Stavisky, d'Alain Resnais, Belmondo ne va plus s'intéresser, vous le dites, à la trace qu'il va laisser dans l'histoire du cinéma. Hein. Il ne fait plus que des films de cascadeurs. Ça va l'amener au sommet d'ailleurs, à des films qui font plus de 5 millions d'entrées.
Frédéric, vous connaissez la phrase de Claude Sautet sur Jean-Paul Belmondo? Claude Sautet qui fait tourner Belmondo dans son premier, dans son véritable premier long métrage, Classe Touriste. Belmondo est admirable. Il n'y a pas d'autre terme. Il est vraiment très bon. Il est merveilleux, quoi. Véritablement, et c'est enthousiasmant, quoi, de découvrir un pareil phénomène. Et Claude Sautet disait, la plupart des cascadeurs rêvent de devenir acteurs. Jean-Paul Belmondo, lui, est un acteur qui est devenu cascadeur.
Oui, c'est un peu ça. Mais Delon est resté ambitieux plus longtemps, hein, avec Un amour de Swann de Volker Schlöndorff, ou évidemment avec Notre histoire de Bertrand Blier, ou Nouvelle vague de Jean-Luc Godard. Mais bon, ce sont des échecs commerciaux qu'il a assumés, d'ailleurs. Mais enfin, au fond, on s'aperçoit que la trajectoire est un peu la même. Ils commencent tous les deux par faire des grands films, et puis ils en font un peu moins. Ils sacrifient au box-office, à la règle du box-office. L'un comme l'autre réessaye une fois ultime. Belmondo, ce sera Itinéraire d'un enfant gâté, son dernier grand succès en 88. Delon, ce sera un peu moins bon, ses Paroles de flic en 85, le dernier grand succès. Et puis ça s'arrête assez vite, au fond, assez tôt.
Parce que, déjà, de toute façon, les carrières s'arrêtent toujours trop vite.
Ah, c'est étonnant. Regardez Robert Redford, Paul Newman, ils ont tourné très très vieux.
C'est exact. Simplement, nous sommes l'écosystème du cinéma hollywoodien et plus riche au sens où il y a plus de monde.
Donc, Gabin a tourné très vieux aussi.
C'était une autre époque du cinéma français. C'est le seul à être resté grand du début à la fin. Ce serait beaucoup plus difficile aujourd'hui.
Pour Depardieu, vous voulez dire ?
Ah, pour Depardieu, c'est fini. Le livre est refermé. Mais vous voyez, ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement, la carrière de Delon Belmondo commence la même année et elle se termine la même année. C'est-à-dire que je dirais que le dernier chef-d'œuvre d'Alain Delon, c'est Monsieur Klein, 1976. Le dernier bon film, le film acceptable de Jean-Paul Belmondo, c'est Le corps de mon ennemi d'Henri Verneuil, 1976. Bon, simplement, nous parlons d'un bon film, alors qu'avec nous parlons d'un des grands films de l'histoire du cinéma français. Donc, ils ont été confrontés au même phénomène, à savoir que les choses se sont arrêtées. Il y a une chose importante aussi, c'est que, vous voyez, Belmondo cherchait à rigoler. Chez Delon, c'est un autre drame, parce que chez Delon, nous sommes en permanence dans la tragédie. Delon s'est toujours projeté, en fait, dans une carrière effectuée sous l'égide de ses maîtres. Ses maîtres, c'était Luchino Visconti, donc Rocco et ses frères, Le Guépard, et Jean-Pierre Melville.
Et René Clément un peu. Joseph Losey aussi.
Et Joseph Losey un peu, mais ce n'était pas la même relation
de
maître à élève. Et vous voyez, dans la première moitié des années 70, eh bien, Visconti et Melville meurent, et Delon ne s'en remet pas, parce que c'est un très grand affectif. Donc soudain, il n'a plus ses pères et il redevient ce fils perdu qu'il a été depuis quasiment la naissance. Quoi. Voilà.
Merci Samuel Blumenfeld.
Merci beaucoup Frédéric.
C'est un livre passionnant. Delon Belmondo, c'est sorti aux éditions Équateur. Europe 1.